Eh bien, écoutez, vraiment merci à tous d'être présents. Je sais que on a une session qui est une session très très longue qu'on avait prévue d'ailleurs avec le soutien de l'Académie de médecine. Et vraiment, je remercie Bernard Charpentier, son président, de nous avoir ouvert ses portes. Malheureusement, le contexte actuel fait que il nous semblait difficile de pouvoir organiser ça en présentiel. Surtout sur un sujet qui était le sujet d'aujourd'hui, puisque notre sujet, c'est quand même le vaccin et la vaccination pour les personnes qui sont des personnes à risque d'infection et ou immunodéprimées, et qu'on voyait mal avoir une contamination dans les locaux de l'Académie de médecine avec un colloque qui est organisé par un collectif d'associations de malades. Je vais simplement vous donner quelques points techniques, si c'est possible. On va fermer toutes les caméras. On ne gardera que les caméras des différentes personnes qui vont être intervenantes. Et on coupera tous les micros aussi. Si vous voulez poser des questions en cours d'intervention des différentes personnalités qui vont prendre la parole, vous avez le chat pour le faire. Et quand on arrivera à la fin des tables rondes ou à la fin des propos introductifs, si vous voulez poser une question par oral, bien entendu, vous avez toujours aussi la possibilité, dans votre barre d'outils, d'utiliser la petite main jaune qui me signale que telle personne ou telle autre veut prendre la parole. Et on privilégiera, bien sûr, des questions qui soient courtes pour avoir des réponses courtes, pour avoir le maximum de rythme dans notre manifestation. Voilà, Ghislaine, si c'est possible de couper ta caméra. Voilà, Luc, si c'est possible également. Et Pierre Aumont également. Ce serait super. Et je vais passer tout de suite la parole à Bernard Charpentier pour introduire et ouvrir ce colloque aujourd'hui.
Merci beaucoup Olivier. Je me présente une seconde. Je m'appelle Bernard Charpentier. Je suis effectivement président sortant de l'Académie de médecine, mais je connais bien ce sujet parce que je suis professeur honoraire de néphrologie à l'Université Paris-Saclay et j'étais surtout chef de service de néphrologie au CHU de Bicêtre dans un énorme service de transplantation d'organes. Donc ma vie sur 45 ans était dévolue donc à l'immunosuppression, à la transplantation et aux transplantés. Et à la louche, comme ça, entre ma pratique aux États-Unis et en France, j'ai dû m'occuper d'à peu près 4 à 5 000 transplantés. Donc ce sujet, moi, je le trouve passionnant parce que les gens pensent que c'est un sujet latéral, mais ce n'est pas du tout un sujet latéral parce que quand on voit la cohorte des gens qu'on peut appeler donc à risque d'infection, je ne parlerai pas des facteurs de risque qui sont liés à l'obésité, à l'hypertension, mais je prends les immunodéficiences qui sont bien sûr les transplantés, quels qu'ils soient, sont très nombreux. Les déficiences des grands organes, et moi je reprends le mien qui est le rein et bien sûr la dialyse, tout le panorama de l'auto-immunité qui est extrêmement large là encore, et là je sais qu'il y a, et je les remercie des associations avec donc des maladies auto-immunes qui sont très très fréquentes, puis bien sûr l'oncologie qui est là encore très large, et heureusement avec des progrès considérables qui ont été faits en matière de radiothérapie, de chimiothérapie, de chirurgie, qui donnent des survies à long terme, mais avec un problème effectivement de déficience immunitaire. Puis j'oublierai pas la dernière catégorie qui est le vieillissement, parce que l'immunosénescence, ça existe, et au cours du vieillissement, on a un déficit immunitaire, à la fois sur les T et les B, quelque chose. Alors je vous rassure, je fais partie de cette cohorte, parce que pour au moins deux raisons, le vieillissement et la déficience immunitaire, donc je suis à la fois médecin, mais en même temps malade, ce qui est très bien des deux côtés du bureau, ce qui me permet d'être parfaitement adéquate dans ce que je vais raconter dans cette courte introduction. Alors, la deuxième chose, c'est que pour le public, cette notion d'infection, surinfection, c'était une cause majeure hein, de mortalité ou de maladie donc, chez les immunosupprimés. Je rappelle simplement que le cytomégalovirus a été un virus qui a tué beaucoup, beaucoup de transplantés dans le temps. Et c'est l'arrivée des anti-CMV, des antiviraux, qui a été une révolution copernicienne dans ma discipline, même par rapport à l'immunosuppression. Parce que ça a permis effectivement d'éviter cette surmortalité qu'on voit aussi par exemple avec le virus d'Epstein-Barr et le lymphome, l'immunosuppression, le HHV8, le virus donc herpès de type 8 et le Kaposi, et puis en fait la grippe hein, qui donnait une surmortalité chez tous les gens qui étaient donc en immunodépression. Et heureusement, la vaccination améliorer les choses. Alors, je voulais rappeler comme troisième point que dans le système immunitaire, le développement du système immunitaire s'est fait parce qu'il y a une pression virale depuis qu'on est requin-marteau, hein, puisque c'est là où est apparue la différenciation T et B, avec une défense immunitaire immédiate qui sont les natural killers, les killers naturels, puis bien sûr le système T et le système B. Et cette défense antivirale, c'est ce qui permet d'éviter effectivement à tous les mammifères de se retrouver en situation extrêmement difficile sur le plan de l'infectiologie. Et par exemple, on sait que certains animaux n'ont pas développé de système HLA ou de système d'histocompatibilité, par exemple le hamster doré, et sont très fragiles aux infections. Alors, le quatrième point, c'est, et Olivier le rappelait, c'est le problème de la vaccination, bien sûr dans le cadre du SARS-CoV-2, mais en général, dans lequel l'étude de la vaccination se fait sur le système B, hein, des plasmocytes, et de la réponse anticorps. Et en fait, on s'aperçoit que le système qui répond fondamentalement chez tout le monde, c'est le système T, donc les lymphocytes T, qui sont thymodépendants, et dans lequel l'étude est beaucoup plus difficile. Elle est possible, mais beaucoup plus difficile, elle n'est pas routinière. Donc, quand on a une réponse B qui est déficiente, est-ce que ça s'accompagne en même temps d'un déficit T? C'est pas évident, et tous les gens qui, en regardant la littérature depuis 6 mois, il y a eu des gens qui n'ont pas de réponse B, c'est-à-dire en fait une réponse anticorps extrêmement faible, voire nulle, contre le vaccin SARS-CoV-2, mais qui ont une réponse T. Donc, est-ce que cette protection est bonne? Est-ce qu'elle est de longue durée, etc.? Le point est en questionnement. Mais en tout cas, ça impose, bien sûr, de restimuler le système immunitaire en venant plusieurs fois avec donc des doses d'antigènes. Et vous savez que pour les vaccins à ARN messager, c'est le même antigène, un antigène de type spike, donc qui permet la réponse d'IgG anti-spike. Donc ça, c'est un point important parce que, j'en parlais tout à l'heure dans le dernier point qu'est la recherche, ça mériterait sûrement d'aller plus loin sur cette réponse T. Alors, pour moi, chez les immunodéficients, bien sûr, la vaccination personnelle est très importante. Elle a commencé très tôt, heureusement. Les gens sont probablement à l'heure actuelle la quatrième injection d'ARN messager, voire éventuellement dans certaines équipes à la cinquième injection, malgré une réponse B anticorps relativement faible. Mais on peut estimer qu'il faudra bien sûr revenir et restimuler parce qu'à chaque fois, le répertoire T augmente et probablement la couverture vaccinale se fait. La deuxième chose, c'est dans les familles, au sens très large, donc il me semble, hein, chez les immunodéficients, il faut donc qu'il y ait dans la cellule familiale une absence de contamination. Et dans cette cellule familiale, ça veut dire que tout le monde doit être vacciné, faire très attention, mettre le masque, le gel, l'isolement au moins de problème et la quarantaine pour éviter de contaminer effectivement la personne en charge, la personne qui est, elle, à risque de se faire contaminer. De la même chose, moi, je conseille toujours pour les réunions publiques, et Olivier l'a rappelé à l'heure actuelle, c'est de faire très attention à ces réunions publiques, l'aération, le port de masque, la discussion sur le FFP2 dans les transports. Moi, par exemple, étant moi-même soumis à cette immunodépression très sévère, je mets un FFP2 dans le métro, dans le train. Ceci dit, ça se discute parce qu'ils sont plus chers, mais probablement quand même plus performants. Et puis, je voulais reparler de la recherche, parce que j'arrêterai là. La recherche me semble très importante dans cette espèce d'énorme apparition de littérature sur le Covid. Vous avez vu, depuis 2 ans, j'ai plus les chiffres, mais c'était plusieurs millions de papiers dans la littérature, plus ou moins bien revués, sur l'infection à SARS-CoV-2. Donc, c'était, à mon sens, premièrement sur le répertoire T, mais beaucoup d'immunologistes, à l'heure actuelle, sont en train de le faire, et en particulier d'essayer de trouver les épitopes antigéniques aussi intéressants que Spike pour éviter donc une non-réponse sur les mutants. Et vous savez que ces virus, qui est une mosaïque, hein, le virus SARS-CoV-2 est une mosaïque d'autres bouts de virus ARN, et qu'en fait, ces mosaïques, pour survivre en permanence chez la chauve-souris, puis ensuite dans l'hôte intermédiaire et enfin chez l'homme, doivent muter. Sans ça, ils meurent. Donc, c'est leur seul moyen d'échapper, et donc les mutations seront permanentes. Donc, effectivement, il faut trouver une somme d'antigènes dans laquelle la défense immunitaire se dirige pour voir que c'est éventuellement une mutation dans un premier antigène. Il y en a un deuxième qui arrive. La deuxième chose sur le plan de la recherche, je pense que pour tous les immunodéficients, une chose importante sera de trouver une réponse IgA. Vous savez que dans la réponse immunitaire, On a une réponse IgM, IgG en centrale, mais en périphérie, dans les muqueuses, il y a une immunoglobuline A qui est en première ligne. C'est ce qui se passe dans le nez et c'est ce qui se passe dans la gorge. Et comme ce virus ne rentre pas que par autre chose que par le nez, pas par les oreilles et pas par ailleurs, donc on peut espérer qu'un vaccin qui développe une réponse IgA dans les muqueuses, donc vaccin naso, aura une efficacité importante dans cette transmission, en particulier dans les foyers, dans les clusters, entre guillemets, familiaux ou un peu plus élargis, mais quand même dans les contacts directs. Et puis, ce que j'espère beaucoup, et ça a été l'invention américaine de ce que vous appelez, bon, ce que peut-être les gens appellent, c'est BARDA, cette défense aux États-Unis depuis 15 ans, d'une société privée qui regroupe les sept énormes départements américains. Ce système BARDA a été fait pour se défendre contre le terrorisme nucléaire, viral, bactérien, etc. BARDA a 1,4 milliard de dollars tous les ans. Son budget est sanctuarisé et d'autre part indépendant du président des États-Unis qui, à l'époque, prenait de l'hydroxychloroquine. Pendant ce temps-là, BARDA immédiatement mettait 11 milliards en 6 jours sur la table pour avoir ces vaccins qu'on a maintenant tous, bien sûr Pfizer, mais surtout Moderna, Johnson & Johnson. Et je voulais parler surtout maintenant, terminer sur les antiviraux directs. J'espère que, alors, bien sûr, le molnupiravir de chez Merck, qui est un analogue de nucléoside, apparemment n'a pas un effet extraordinaire. Le Paxlovid va arriver, d'autres vont arriver, mais ces antiviraux directs, je pense que nos collègues vont en parler tout à l'heure, seront une arme supplémentaire lors de l'infection pour éviter de passer d'une infection standard à une infection sévère, puis une infection qui conduit à la réanimation. Et je pense que ces gros laboratoires mondiaux vont faire un effort, sont en train de faire un effort sur ces antiviraux directs, parce que quand on aura à la fois vaccination, à la fois d'autres moyens de vaccination ou d'immunologie, et d'autre part des antiviraux directs, la panoplie va se compléter, et je pense que ça évitera les catastrophes. Bien sûr, à l'heure actuelle, comme vous le savez, beaucoup d'anticorps monoclonaux qui étaient donnés donc aux immunodéficients lors de l'infection, malheureusement, ne sont pas efficaces, ou ne sont plus efficaces contre les mutants, soit Delta, soit Omicron. Donc ça pose vraiment cette mutation permanente de ce virus. Il faut s'adapter. Et cette adaptation, bien sûr, dépend de la recherche publique, la recherche privée, la recherche des laboratoires. Et là, c'est la main dans la main, tous ensemble, pour lutter contre cette pandémie. Et il faut bien se dire que cette pandémie, elle existe, mais il y aura d'autres pandémies, c'est tout à fait clair. Donc, je souhaite, moi, de tout cœur, que l'Europe se dote d'un système de réponse aux pandémies rapides, qu'on appelle ERA, et qui est donc en voie de constitution pour lutter contre des virus qui n'ont pas de frontières et qui nous tutus. Voilà. Donc, merci encore à tous. J'étais très content de faire cette introduction. Merci encore à Olivier Mariotte et à Neil de faire donc ces rencontres extrêmement intéressantes, qui sont courtes, qui ont du peps, qui sont pas barbantes comme certains discours et cathédrales, ou éventuellement complètement à côté du sujet, comme sur certains plateaux de télévision, dans lesquels certains connaissent tout sur rien et rien sur tous. Donc voilà, merci encore à tous et puis bon travail. Et puis je reste bien sûr avec vous. Merci encore Olivier.
Merci Bernard, merci beaucoup. Ben justement, pour souligner la conjonction d'action du public et du privé, moi j'aimerais au passage remercier deux structures. Une structure qui est présente par son président aujourd'hui, qui est Pierre Tadevin, c'est la SPIF, la Société de pathologie infectieuse de langue française, et puis Pfizer également, parce que ce sont deux structures qui, l'une privée et l'autre, on va dire, plus publique, permettent justement la tenue de ce genre de manifestations et c'est bien de pouvoir alimenter le débat et de faire en sorte de faire des propositions. Et on essaiera tout au long de ce colloque de faire le maximum de propositions pour pouvoir ensuite les porter aux politiques. Alors, Dominique Godard, vous qui êtes représentante du collectif interassociatif Avenir et présidente de l'Association des sclérodermiques de France, c'est quoi Avenir?
Alors, Avenir, c'est un collectif d'associations, 11 associations qui se sont regroupées en 2013, regroupant donc des malades immunodéprimés à risque accru d'infection, leucémique, hypertension artérielle pulmonaire, sclérodermie, spondylarthrite, maladies cardiaques, maladies rénales et autres, et qui ont décidé de faire. Comment dire, d'avoir une action pour faire bouger les choses au niveau de la vaccination, parce que on était tous concernés par les recommandations vaccinales pour la grippe et le pneumocoque, mais il n'y avait rien qui bougeait. Donc on a créé ce groupe Avenir, ce qui veut dire action, vaccination, immunodéprimé, réalité. On avait un même constat, un manque d'informations, de connaissances sur la vaccination. C'était en 2013, hein, donc ça fait déjà presque 10 ans. Les contre-indications, comme la rougeole et le vaccin de fièvre jaune, et surtout un calendrier vaccinal inexistant pour ces patients à haut risque d'infection. L'objectif de notre groupe, c'était de produire des données sur ces populations spécifiques, donc de malades à risque d'infection, et de comprendre leur parcours, les obstacles qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien et au fil d'une année quand ils avaient besoin d'une vaccination, et surtout formuler des recommandations en les diffusant ensuite le plus largement possible. Donc, grâce à Avenir, on a atteint cet objectif avec 3 enquêtes réalisées à ce jour avec l'aide du docteur Loubet et le laboratoire Pfizer. Monsieur Loubet en parlera tout à l'heure. 2 colloques au Palais du Luxembourg en 2013 et 2016, qui ont eu aussi pas mal d'impact. La participation à la concertation citoyenne en 2016 avec le professeur Fischer. Des rencontres diverses avec le ministère, les ARS, la DGS, la CNAM. Pas toujours suivi des faits, mais on a pris des contacts. Et 3 campagnes de réseau de vaccination, enfin de promotion de la vaccination sur les réseaux sociaux. Et ça, pour le grand public, de façon à aussi promouvoir la vaccination, parce qu'on sait que la France est toujours un peu réticente à la vaccination, même si c'est pour se protéger ou pour protéger les autres. En parlant de ça, je voudrais revenir sur la dernière enquête Avenir Pfizer réalisée en 2020, car elle fait apparaître des éléments importants. Que malgré tout ce qu'on a fait ou malgré tout ce qui est mis en place, la couverture vaccinale reste basse sur la grippe et le pneumocoque. Et certaines ne savent même pas ce que c'est que le pneumocoque. L'information est jugée insuffisante par les patients et leur parcours reste toujours compliqué, même s'il y a eu des améliorations. Une chose importante aussi, c'est la confiance dans la parole des associations de patients, qui ont quand même pris une place importante aujourd'hui. Et les professionnels de santé qui nous entourent, donc qui sont avec nous et qui nous aident à porter une parole scientifique et sécurisée. Il y a une chose aussi importante, c'est qu'on s'est rendu compte que la pandémie Covid-19 a eu un effet auquel on ne s'attendait pas, une meilleure connaissance des termes tels que comorbidité, patient vulnérable. Personne ne savait avant ce que ça voulait dire. Et on a appris aussi que quand on voulait, on pouvait, c'est-à-dire quand on met en place les moyens pour contacter rapidement, si nécessaire, tous ces patients, on y arrive. Donc, ce sont des éléments à conserver dans le futur et à appliquer. Donc, cette pandémie aujourd'hui qui nous touche, mais qui nous fait rebondir sur notre vaccination grippe et pneumocoque, et c'est le but de notre colloque aujourd'hui, c'est de mettre en évidence la vulnérabilité des patients et la nécessité absolue de tout mettre en œuvre pour les protéger. Oui, pardon?
Non,
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 d'accord.
je
Il y a une chose importante aussi, je ne vous ai pas parlé parce que M. Charpentier a parlé tout à l'heure de la vaccination et des anticorps. Je suis pro-vaccination depuis très longtemps. Je me suis battue personnellement et maintenant j'ai rejoint le groupe Avenir parce que c'était aussi un but dans ma vie. J'ai suivi le parcours vaccinal Covid-19 normal avec 3 injections en janvier, février et mai. Je me suis sentie protégée, évidemment, j'avais un vaccin donc j'étais relativement tranquille et puis le couperet est tombé quand on m'a fait faire une sérologie, je n'avais aucun anticorps. Donc, j'ai pu avoir les anticorps monoclonaux, ce qui a été quand même une bonne chose pour moi psychologiquement parce que on est quand même, vous le vivez tous, on est tous inquiets, on est tous inquiet des autres, on se pose des questions, on ne touche plus la main, on est vraiment retiré aujourd'hui des autres, on vit que chez soi, enfin, c'est compliqué. Et donc, ces anticorps m'ont permis de vivre un peu mieux. Malheureusement, aujourd'hui, celui que j'avais ne fonctionne plus, j'attends le suivant. Ça va venir. Donc, je pense que c'est déjà appliqué pour certains, moi, je l'aurai prochainement. Et je voulais en revenir maintenant donc à cette pandémie, puisque c'est quand même lié, même si c'est deux choses différentes, le Covid et nos vaccinations à nous. Le déploiement de la vaccination Covid-19, même si c'est décrié par certains, a pour nous été, on est convaincu que ça a été un large succès, car il est important de ne pas oublier et de rappeler sans cesse que l'importance des vaccinations recommandées pour les adultes à risque d'infection et le besoin d'information sur ces populations, puisque on s'aperçoit quand même aujourd'hui que certains qui ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information aussi, même pour le Covid. On a aussi constaté une chose importante pendant cette pandémie, c'est qu'il y a eu une baisse relativement sensible de ces vaccinations dites traditionnelles, comme la grippe saisonnière, parce que les personnes n'ont pas fait leur rappel, les personnes ont eu peur de faire les deux en même temps. Ça va montrer même cette année, je pense, une forte baisse dans la vaccination contre la grippe. Donc il faut, je pense, surfer sur cette vague de la pandémie, du Covid-19, et que tous les dispositifs innovants qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, en coordination avec tous les acteurs de santé, bien évidemment, dans le cadre de cette campagne de Covid-19, puissent être pérennisés et renforcés et transférés un peu à tout ce qui est vaccination traditionnelle, dont la grippe saisonnière et le pneumocoque. Toutes ces avancées sont majeures pour notre système de soins en général et pour la politique vaccinale en France. Elles sont soutenues de longue date par le groupe Avenir et on va continuer. Merci.
Merci Dominique. Je crois que ces messages sont extrêmement importants à rappeler. La vaccination, ce n'est pas simplement fait pour les personnes vaccinées, c'est aussi fait pour protéger les autres. Et je pense que là-dessus, Pierre Tadevin, qui, comme je le disais, est professeur de maladies infectieuses à Rennes, au Centre hospitalier universitaire de Rennes, et président de la SPILF, donc la Société de pathologie infectieuse de langue française, vous, par rapport à la vaccination et par rapport à ce groupe Avenir et aux actions qui sont menées par le groupe, quelle est la position de la société savante? Comment vous les soutenez? Quels sont les constats que vous avez pu faire? Et en particulier, un constat qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment on peut expliquer qu'il y ait des disparités territoriales aussi importantes, d'ailleurs qui sont reprises maintenant en compte dans les politiques qui sont mises en place par l'État. Mais comment on peut expliquer des disparités territoriales en termes de couverture vaccinale, en termes de prise en charge des patients, comme on a pu le voir à l'heure actuelle?
Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité, à la fois le collectif des associations de patients à venir. Là, c'est vraiment un plaisir de vous entendre et puis de participer à cette matinée. On pense tous que c'est vraiment important d'avoir pu renforcer les liens avec les associations de patients depuis quelques années. On espère continuer à participer à ces échanges. Et puis, merci Olivier Mariotte pour l'organisation. Donc, la SPIL, on pourrait dire un collectif aussi, mais de professionnels de santé, pas de patients. On est un peu plus de 700 et les statuts de l'association, notre objectif, c'est de contribuer à une meilleure prise en charge des maladies infectieuses. Et donc, effectivement, la vaccination est pour nous un des modèles, un des outils les plus puissants qu'on peut avoir pour améliorer la prise en charge des maladies infectieuses en agissant là où c'est le plus important, finalement, la prévention. Et on s'est rendu compte il y a à peu près un an, quand on a pu avoir des vaccins disponibles pour le grand public et les patients ici en France, qu'on partait avec un sacré retard. On était le pays champion du monde de l'hésitation vaccinale, hein, vous vous souvenez sans doute, il y a quelques années, le pays où les gens doutaient le plus de l'intérêt de la vaccination. Et donc, on s'est beaucoup engagé dès le début pour essayer d'accompagner cette campagne de vaccination qui, pour être tout à fait honnête, partait très mal. Vous vous rappelez peut-être de toutes les règles qui avaient été mises en place au mois de janvier 2021 qui avaient beaucoup inquiété le public. Le fait, par exemple, d'exiger qu'il y ait un délai de quelques jours entre le moment où on décide la vaccination et le moment où on la fait ne facilitait pas la campagne vaccinale telle qu'elle était nécessaire dans le pays. Et donc, avec un groupe dédié à la vaccination et à la prévention, qui est coordonné notamment par Odile Launay, dont vous entendrez tout à l'heure la présentation, on a beaucoup agi pour essayer de faire en sorte qu'au moins du côté des professionnels de santé, on soit en ordre de marche, qu'on ait des messages clairs, qu'on ait des réponses claires et homogènes à apporter à tous les patients qui posaient des questions. Et donc, on a développé en janvier 2021 un document qui s'appelait « Questions-réponses » qui était diffusé et qui a eu un gros succès vis-à-vis des autres associations, des autres professionnels de santé, la société de rhumato, de médecine interne, de transplantation, etc. Et donc, on peut dire, quand on regarde avec le recul un an plus tard, que finalement, cette année 2021 a quand même été globalement très positive. Et c'est vrai que si on nous avait demandé il y a un an, est-ce que vous pensez qu'on aura la couverture vaccinale à la fin de l'année 2021 supérieure à 90% dans les populations ciblées au départ, par exemple, on n'aurait peut-être jamais été aussi optimiste, aussi positif que ce qu'on a vu finalement au fil de l'année, avec la France qui est un des meilleurs, des pays les mieux vaccinés contre le Covid, si bien contre le Covid, parce que ce n'est pas vrai pour tout, actuellement. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une telle hétérogénéité? C'est vraiment une bonne question et je pense que les raisons sont multiples. Il y a certainement eu des problèmes de communication dans certaines zones et notamment, je pense que dans les dom-toms, on aurait pu faire beaucoup mieux et que ça a été très mal fait et qu'ensuite, c'est un peu parti, ça a été l'enchaînement de mauvaises choses avec des mauvaises communications, des contre-communications très agressives qui ont abouti à la catastrophe qu'on a connue au deuxième semestre 2021 avec, par exemple, la situation en Guadeloupe, en Martinique, qui est dramatique, alors que tout le monde avait accès au même vaccin et que ces vaccins ont vraiment permis, dans la plupart des régions françaises, de passer une année 2021 bien meilleure que l'année précédente. On a pu laisser les écoles ouvertes, on a pu circuler relativement librement, les étudiants ont pu aller en cours, on a pu aller au théâtre et au cinéma et dans les restaurants en prenant des précautions. Donc d'un côté, un résultat global très satisfaisant, et de l'autre côté, des hétérogénéités, malheureusement, sur lesquelles on a du mal à progresser. Donc je pense qu'un des messages vraiment importants, c'est que l'année 2021 a été très bonne en termes d'amélioration de la couverture vaccinale contre le Covid. Franchement, on a atteint des objectifs collectivement qui étaient presque inespérés il y a un an et qui ont permis d'éviter certainement des milliers de morts et permis aussi, même si les immunodéprimés n'ont pas pu bénéficier à titre individuel de la protection vaccinale aussi bien que les autres, hein, vous l'avez bien dit, les anticorps ont été difficiles à obtenir chez les greffés, par exemple. Ça a quand même eu un impact important parce que contre les variants alpha et delta, bien vacciner la population générale a permis de beaucoup limiter la circulation du virus. Et les épidémies ont été de très faible intensité tant qu'on avait ces variants-là et tant qu'on était bien vaccinés dans les régions bien vaccinées. Moi, je travaille en Bretagne. On a passé à l'automne, par exemple l'été et l'automne 2021, de manière presque indolore, j'allais dire, alors qu'on avait cette épidémie Delta qui sévissait dans beaucoup d'endroits. Donc globalement, plutôt content de la façon dont ça s'est passé et surtout de la très bonne synergie, je pense, entre à la fois les pouvoirs publics, les professionnels de santé, les associations de patients pour essayer d'améliorer le mieux possible la couverture vaccinale. Et on est arrivé à quelque chose qui nous a rendu solide toute l'année 2021. Et je ne vais pas être trop long, mais je pense que c'est quelque chose qui est important à partager avec vous aussi, et je terminerai là-dessus. On ne sait pas très bien comment ça va se passer en 2022, honnêtement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes qui ont été dites là, notamment les vaccins qu'on a actuellement, qui ont été vraiment très importants en 2021 pour tout le monde, se présentent au début 2022, avec un rapport bénéfice-risque qui va être un peu moins bon qu'avant, c'est à peu près sûr, parce qu'on a d'un côté un virus qui est moins agressif, le variant Omicron, pour l'instant, il est nettement moins agressif, y compris chez les immunodéprimés. On commence à voir vraiment qu'il y a beaucoup de patients, même avec des défenses immunitaires fragiles, qui font des Covid pas très graves avec le Omicron. Et que de l'autre côté, le vaccin marche un peu moins bien quand même, il faut bien le dire. La plupart des gens qui ont fait des Covid avec le variant Omicron étaient bien vaccinés actuellement. Et donc, ce que ça amène à dire, c'est qu'il faut bien sûr continuer à vacciner, notamment parce que probablement une bonne partie de la faible gravité des Covid Omicron sont liés au fait qu'on a une population bien protégée maintenant qui sait mieux se défendre. Il y a bien sûr le virus qui est moins virulent, mais il y a aussi le fait qu'on commence à être tous de mieux en mieux protégés. Mais ça enchaîne un petit peu sur une des choses importantes qu'a dit Bernard Charpentier en introduction, c'est qu'on va devoir continuer à se vacciner. Il faudra être attentif à bien suivre les schémas et à introduire, à incorporer les nouveaux vaccins dans nos recommandations, dans les schémas vaccinaux. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a d'autres choses. Il y a bien sûr les mesures barrières, il y a les antiviraux, il y a les anticorps monoclonaux dont Dominique Godard a parlé, qui vont aussi être un moyen. Donc on sent qu'on va évoluer probablement vers une espèce de panoplie de protection pour que 2022 se passe bien, mais que ce ne sera peut-être pas autant l'année du tout vaccin que ça a pu être en 2021. On a un vaccin qui est pour l'instant moins bon contre le variant actuel que ce qu'on avait en 2021. On a une maladie qui est moins grave, donc on va évoluer probablement. Et je trouve important de le dire parce qu'il ne faut pas le fait que les messages changent un peu ou que les outils changent un peu. Ça ne veut pas dire qu'on a eu tort de faire ce qu'on a fait l'année dernière. C'était la meilleure solution et ça a sauvé des vies. Mais peut-être qu'en 2022, il va falloir changer un petit peu, garder les vaccins bien sûr, mais peut-être évoluer et on le saura dans les semaines qui viennent. On aura sans doute des nouvelles recettes à vous proposer, à nous proposer pour que 2022 se passe bien.
Merci Pierre pour ce propos qui est extrêmement important. Ça va être compliqué en termes de communication parce que quand on voit la façon dont les médias grand public relaient l'information, on a des prises de position qui sont extrêmement péremptoires, des gens qui font des bilans de l'instant T avec ce qui s'est passé 6 mois avant. Ils ne vont pas rentrer du tout dans cette phase de relativité que vous introduisez, dans ce doute scientifique sincère qu'il va falloir porter auprès des populations pour leur dire « on a fait ça ». C'était le bon moment, c'était la bonne action, mais demain il faudra faire autre chose, il faudra être capable de s'adapter, de changer de stratégie et tout ça. Ça va être un gros challenge pour un certain nombre de personnes et en particulier pour un certain nombre de confrères médiatiques qui n'hésitent pas à envoyer des messages qui quelquefois sont des messages à la limite d'ailleurs de la véracité scientifique. Donc ça va être un challenge supplémentaire. Deuxième challenge, c'est celui de la grippe, puisqu'on a reçu ça aussi, c'est peut-être très certainement un des acquis positifs pour les professionnels de santé. C'est qu'on a tous reçu DGS Urgent, qui est une newsletter de la part de la Direction Générale de la Santé. La dernière que j'ai reçue faisait part du fait que la grippe cette année n'était pas forcément très, très sympathique et qu'il y avait une recrudescence des cas puisque la vaccination est poursuivie, mais qu'on était encore une fois en sous-couverture vaccinale. Et là, il faudrait peut-être aussi passer des messages sur le risque de contamination grippale et les conséquences de la grippe sur la population. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis content de participer à cet échange-là, parce que je pense que pour la communication, si on veut que ça se passe bien, il est important qu'on échange, qu'on partage et que les associations de patients partagent aussi. Peut-être se mettre plus en avant vis-à-vis des médias qui ont tendance à comme vous dites, plutôt préférer les gens un peu péremptoires qui disent « je sais » et je crois que c'est important qu'on échange là-dessus. Et ce que je viens de vous dire, je ne l'aurais pas dit sur un plateau télé, hein, de dire qu'on va peut-être changer un peu les règles et que ce sera peut-être un peu moins le tout vaccin en 2022. Mais je pense que c'est important qu'on échange là-dessus et qu'on partage les informations et surtout des espèces de stratégies de communication pour que ça passe bien vis-à-vis des patients après.
Super. Bah écoutez, vraiment merci. Dominique, est-ce que vous avez un mot à rajouter sur ces propos introductifs ?
Oui, je voulais, par rapport à ce que disait le professeur Tadevin, c'est que c'est un peu inquiétant aussi de dire qu'il va falloir s'adapter parce qu'on ne sait pas s'adapter avec quoi. Donc, est-ce que ça va être un nouveau vaccin ? Ça va être le nouveau médicament ? Est-ce qu'on est un peu dans le flou ? Déjà, c'est compliqué à vivre au quotidien. Là, même si vous dites que vous ne l'auriez pas dit sur un plateau de télé, c'est un peu inquiétant quand même de savoir qu'on se dit on ne sait pas trop où on va encore aujourd'hui.
C'est inquiétant si vous voulez, mais c'est la vérité. Et oui. Et peut-être pas si inquiétant que ça dans le sens où il y a des gens qui disent, on le saura dans quelques semaines, là aussi ce n'est pas un truc que je dirais sur un plateau de télé, mais qu'on est peut-être en train d'arriver au bout du chemin de cette grande épidémie qui est le moment où le virus devient vraiment juste responsable de maladies comme des rhumes, par exemple, parce que le rhume, c'est un coronavirus qu'il donne en général, en ayant évolué à quelque chose de très contagieux, mais qui ne rend pas très malade. Et par exemple, le rhume n'est pas un problème pour les immunités. Ou déprimé. Donc, si notre SARS-CoV-2 est en train d'évoluer vers ça, peut-être que 2022 sera aussi l'année où on va pouvoir se reposer et reprendre une vie plus normale, sans forcément, du coup, avoir besoin d'anticorps monoclonaux et de vaccins, s'il s'avère, c'est trop tôt pour le dire, vraiment trop tôt, mais c'est peut-être pas Omicron, d'ailleurs, c'est peut-être le variant suivant, mais on va arriver, très probablement, à un SARS-CoV-2 qui sera plus un problème pour notre vie quotidienne.
Oui, et par rapport à ce que disait Olivier aussi, c'est insister aujourd'hui sur le vaccin pour la grippe, parce que vraiment, beaucoup de gens ne l'ont pas fait cette année, et ça, c'est embêtant, surtout si, comme vous dites, elle est plus méchante peut-être, ou peut-être qu'elle aura une action aussi grave, je ne vais pas dire aussi grave que le Covid, mais chez certaines populations, ça peut. Voilà, oui. Merci.
Ça va renforcer l'intérêt, de toute façon, de la vaccination et d'une vision large de la vaccination en prenant en compte le pneumocoque, la grippe, très certainement également des pathologies comme la coqueluche qu'on oublie souvent, qui sont extrêmement pénibles quand on voit de temps en temps des gens qui réattrapent la coqueluche parce qu'ils n'ont pas fait de rappel. Et ce n'est pas un épisode de maladie extrêmement sympathique à vivre. Donc voilà, et on voit également quand sur d'autres virus ou d'autres souches, ne serait-ce que la rougeole par exemple, les ravages que ça peut causer dans un certain nombre de situations. Et dans un certain nombre de pays d'ailleurs, comme les pays en voie de développement, quand il n'y a pas de couverture vaccinale, ça devient des fléaux importants. Alors, on va passer justement sur la table ronde numéro 1, qui est la vaccination des personnes à risque accru d'infection. Savoir où on en est, qu'est-ce qu'on a fait comme progrès. Et je vous remercie, Pierre et Dominique.